premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire en prélude au rendez-vous de l'Histoire qui se tiennent à partir de jeudi à Blois où nous serons en direct vendredi matin. Le thème de Blois cette année se résume à un verbe, partir, et pour nous ça sera partir en politique. Nous allons en effet vous parler pendant 4 jours de l'histoire des voyages politiques et nous parlerons aujourd'hui des voyages des intellectuels dans les régimes autoritaires de l'entre-deux-guerres. De telles études sur la place des voyages à l'étranger des différentes catégories de touristes se développent en effet depuis maintenant une vingtaine d'années et répondent à de nombreuses questions. Pourquoi partent-ils? Que vont-ils voir dans leur périple? Comment leur regard est-il orienté par les puissances invitantes? Cherchent-ils à s'asseoir ou à asseoir leurs convictions, à trouver des arguments en faveur ou en opposition à ces régimes nouveaux, en particulier dans l'entre-guerres? Nous nous centrons ce matin sur deux exemples, l'Italie des chemises noires et l'Union soviétique, avec Christophe Poupeau. Il est professeur en classe préparatoire à Avignon, il est enseignant à l'IEP d'Aix et sa thèse a été publiée à l'École française de Rome. Elle portait sur les voyages français de l'Italie des chemises noires. Et Rachel Mazui est également avec nous, elle est historienne et chercheure invitée à l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, auteur de « Croire plutôt que voir », c'était sa thèse, et également co-auteur de « Cousu de fil rouge avec Sophie Queret. Elle publiera bientôt les lettres de Marguerite et de Jean-Richard Bloch en voyage en URSS. Mais tout de suite, le 45e épisode de notre feuilleton, comme tous les lundis, La Fabrique de la Guerre froide, conçu par Anaïs Quien et réalisé par Françoise Camard.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které všichni přejdou.
Товарищи делегаты, уважаемые гости. 27e siège KPSS.
La guerre de Corée se poursuit sous la conduite du général Walker et du général Dean, héros des combats de Taiwan.
The defense of our own security and of the entire Western Hemisphere.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
The Suez Canal, storm center of controversy for weeks, now becomes a cause of war in a lightning sequence of diplomatic and military moves. Since its seizure and nationalization by President Nasser of Egypt, the vital waterway has precipitated a new crisis in the already tense Middle East. Crack French units are embarked at Marseille, bound for a joint staging area with Great Britain on Cyprus, less than an hour's flight from Egyptian ports, where they are prepared for seizure of the canal by force.
En juillet 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez, contrôlé jusque-là par la France et la Grande-Bretagne, dans un contexte de tensions toujours vives dans la région entre Israël et ses voisins arabes. Les anciens propriétaires du canal décident d'intervenir. Pierre Grosseur.
Alors la tension du côté des Britanniques, c'est qu'eux essayent de maintenir très largement leur place au Moyen-Orient. Ils s'appuient largement sur la monarchie hachémite en Irak et bien sûr sur la Jordanie. Et donc l'idée, c'est d'essayer de rallier un peu les pays arabes pour avoir encore une place dans le monde. Alors que les Américains, eux, ont une vision beaucoup plus guerre froide, c'est-à-dire d'essayer de créer une espèce d'alliance au nord du Moyen-Orient pour empêcher une progression des Soviétiques vers le sud. Alors évidemment, pour les Britanniques, la nationalisation du canal de Suez en juillet 1956 est un peu une insulte. Et donc, s'ils disent qu'ils sont prêts à accepter l'internationalisation du canal de Suez, que c'est un bien commun, etc., etc., évidemment, pour eux, c'est vraiment le symbole de leur présence en Égypte. Et Anthony Eden, qui est le Premier ministre, est absolument hystérique à l'égard de Nasser. Il est persuadé, parce qu'il a fait un peu d'études d'arabe et de persan, qu'il connaît parfaitement le Moyen-Orient, il n'écoute personne, il est à moitié autiste sur cette question-là, enfin c'est vraiment assez terrible. Et donc il veut se débarrasser de Nasser. Il y a eu des temps, on a réfléchi beaucoup de savoir comment on allait l'assassiner. Et puis, du côté français, évidemment, une des choses qui est très très importante, c'est la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une partie de nationalisme en Afrique du Nord, et en particulier en Algérie, est encouragée depuis le Caire, depuis notamment la radio du Caire. Et donc, se débarrasser de Nasser réglera le problème algérien. Alors, du côté de Nasser, lui, il joue l'alignement sur l'Union soviétique, ça l'intéresse pas spécialement. Il a d'ailleurs réprimé et arrêté des communistes à tour de bras. L'alignement sur les États-Unis encore moins, parce que les États-Unis sont les alliés des Britanniques et les Britanniques sont encore le colonisateur. Et en fait, donc, Nasser essaye de se donner du jeu. Il essaye de se donner du jeu, c'est pour ça qu'il importe aux grands... La grande terreur et des Américains et des Israéliens, des armes de Tchécoslovaquie. Ça, c'était vraiment un moment, hein, à l'automne 1955, qui est un tournant absolument majeur. En mai 56, il est le premier à reconnaître la Chine, communiste. Là aussi, évidemment, du côté américain, on sursaute, on crie, on hurle. Et donc, les Américains, finalement, pour un peu punir cette autonomie de Nasser, eh bien, refusent notamment le financement de la construction du barrage d'Assouan. Et les Soviétiques se précipitent dans cette affaire-là, bien entendu, en promettant évidemment de l'aide et d'acheter le coton égyptien. Donc voilà, les tensions sont de plus en plus fortes et c'est ça qui amène la crise de Suez.
Et que va être véritablement cette crise de Suez, Pierre Grosseur ?
Alors, bah, c'est d'abord un complot, hein, très largement. C'est un complot entre Français, Israéliens et Britanniques. Les Britanniques et les Français n'interviennent que pour séparer les Égyptiens et les Israéliens, comme par hasard en s'installant évidemment sur le canal de Suez. Donc c'est clairement un complot qui est évidemment problématique parce que dès qu'il y a l'attaque israélienne, on passe aux Nations Unies. Et le problème, c'est qu'au même moment, vous avez la crise en Hongrie. Et le 1er novembre, vous avez l'invasion de la Hongrie par les troupes soviétiques. Et donc, les deux se superposent. Et il semble quand même que les soviétiques ont pris un peu prétexte de ce qui se passait ailleurs pour en profiter, pour en mettre fin à la révolte à Budapest.
Donc là, on assiste à une sorte d'embouteillage aux Nations Unies.
Embouteillage, absolument. Et les Américains, ils sont furieux de beaucoup de choses. D'abord, pas avoir été consulté, ce que Eisenhower dit, il a tout à fait raison. En gros, on vient l'informer quand il est en train de jouer au golf, parce qu'il jouait beaucoup au golf. Ça, c'est la première chose. Et puis, il est furieux, évidemment, donc, de cette opération de force qui va donner une très mauvaise image de l'Occident. Et puis, que ça intervienne à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où on pourrait condamner une opération soviétique, qui est quand même lourde et meurtrière. Il y a embouteillage aux Nations Unies. Et c'est intéressant sur les Nations Unies, c'est qu'à partir de ce moment-là, sous impulsion canadienne, qu'il va y avoir la première opération de maintien de la paix des Nations Unies, justement pour au moment où on sépare les Égyptiens et les Israéliens. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les Britanniques et les Français ont été assez mauvais parce qu'ils n'ont pas essayé, s'ils voulaient renverser Nasser, de jouer sur des gens qui étaient nationalistes égyptiens, mais qui n'étaient pas pro-nassériens. Alors bien sûr, les frères musulmans, alors on peut considérer qu'ils étaient déjà pas très fréquentables, et d'ailleurs ils étaient assez poursuivis par Nasser, mais aussi un certain nombre de royalistes, un certain nombre d'anciens premiers ministres, d'autres nationalistes qui n'étaient pas forcément pro-Nasser. Et ça, on le sait aujourd'hui avec évidemment des travaux plus, avec des documents en arabe, qu'il y a eu peut-être une occasion manquée de jouer cette carte-là.
Et Nasser est véritablement...
Mais il devient un héros après, et là son autorité n'est plus contestée.
Malgré sa défaite.
Malgré sa défaite, absolument.
Voilà pour ce 45e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, conçu par Anaïs Quin et réalisé par Françoise Camard. Vous pouvez, comme tous les épisodes de ce feuilleton, le télécharger séparément du reste de l'émission et garder avec vous l'ensemble de la série. Bonjour Séverine Yatta.
Bonjour.
Vous avez préparé toute cette semaine, donc consacré en particulier le documentaire de demain, consacré au voyage politique à l'occasion du thème de Blois, donc des rendez-vous de l'histoire de Blois, partir. Et effectivement, ces voyages politiques, vous allez les faire cheminer dans le temps et dans l'espace assez largement.
On essaie dans le temps, c'est-à-dire ne pas traiter que du XXe siècle. Donc on ira un peu prospecter, explorer le grand tour de Charles IX mercredi. Et puis les voyages républicains qui précèdent la Révolution française, au moment de la Révolution française, et puis juste après aussi la Révolution française.
Ça sera voilà. Jeudi, ça.
Ça sera jeudi.
Et demain, vous avez concocté avec Véronique Savouilloff un documentaire donc, consacré au voyage de Gaulle.
Un grand voyage de De Gaulle. Il a fait beaucoup de grands voyages, mais celui-là est particulièrement long et important.
Trois semaines de voyage en Amérique latine.
À l'automne 1964.
Mais pour commencer, nous aurons aujourd'hui les voyages d'intellectuels. C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui avec Rachel Mazuy. Bonjour Rachel Mazuy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous serez en deuxième partie de cette émission. Vous avez travaillé depuis longtemps maintenant, depuis votre thèse, sur les voyages d'intellectuels, en particulier en Russie soviétique. Et nous sommes avec Christophe Poupeau. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et vous avez travaillé sur une sorte de trou noir, pourrait-on dire, de ces voyages en particulier politiques et intellectuels de l'entre-deux-guerres. Le voyage dans l'Italie fasciste, c'est le thème de votre thèse qui a été publiée à l'École française de Rome il y a 2 ans maintenant. Et vous dites qu'il y a autour de ce thème, voyage politique, mais voyage en général, d'intellectuels, d'hommes politiques, etc., etc., une sorte de floraison de travaux depuis maintenant une vingtaine d'années.
Oui. Alors, au départ, quand j'ai commencé cette recherche, il y avait, hein, vous l'avez dit, un vide historiographique incontestable. Donc, il y avait eu des travaux hein, sur l'URSS, de Rachel Mazui, de Sophie Curé, de Fred Kupferman. Il y a maintenant hein, une thèse qui a été faite aussi sur l'Allemagne nazie. De Frédéric Salé à Grenoble. Et curieusement, l'Italie était complètement restée à l'écart, alors que c'est un pays qui, enfin, dont on connaît l'attractivité culturelle, notamment pour les élites hein, des périodes anciennes. Et donc, j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet. Et de fait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément hein, de voyages d'hommes politiques ou d'intellectuels.
Alors, évidemment, il y avait tous les voyages dans la lignée, pourrait-on dire, du Grand Tour, des voyages traditionnels, pourrait-on dire, en Italie, pour aller découvrir la culture italienne, le patrimoine italien. Mais effectivement, la particularité, c'est que vous êtes centré, vous, sur la période de l'Italie fasciste.
Tout à fait. Alors, cette période, justement, était pour moi intéressante à étudier parce qu'on a en tête hein, l'image de ce fameux Grand Tour. On a aussi, justement, l'impression que ces voyages, cette attractivité culturelle stoppe avec la Première Guerre mondiale. Or, il n'en est rien, puisque les archives montrent très bien hein, qu'après la Première Guerre mondiale, les choses reprennent et que le fascisme n'est pas du tout une rupture hein, dans les voyages de ces intellectuels et de ces politiques. Bien au contraire. Et l'Italie, qui devient fasciste, hein, ce régime autoritaire et totalitaire, d'ailleurs en construction, altère de fait l'expérience même des voyages et va continuer à attirer pour les ruines antiques, hein, toujours, pour les belles églises, les beaux paysages, mais on vient aussi, hein, pour certains en tout cas, voir ce qui se passe hein, dans ce pays.
Alors Christophe Poupaud, dans vos thèses justement, hein, qui est une thèse importante, imposante, si je puis dire. Il y a tout un chapitre sur un essai de définition qui sont ces voyageurs. Alors vous faites une étude voilà sur la diversité vraiment. C'est-à-dire comment définir ces voyageurs. Ça va effectivement des voyageurs de loisirs hein, qui continuent finalement à visiter cette Italie un peu mythique, ses ruines, ce pays de sa culture artistique, les pèlerinages catholiques, des voyages scolaires, des voyages à but professionnel. Il y a beaucoup d'échanges aussi économiques, des voyages industriels et puis alors les voyages d'intellectuels effectivement qui peuvent alors paraître plus ambigus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'intellectuels évidemment qui vont aller voyager ou poursuivre leur voyage en Italie fasciste.
Exactement. Alors, tout dépend évidemment de la définition qu'on a de l'intellectuel, qui est un vaste sujet et sur lequel on aura peu le temps aujourd'hui de débattre. En tout cas, l'Italie, faut bien rappeler, malgré tout, hein, qu'il y a une frontière avec la France. Donc, c'est un pays qui a une proximité géographique, hein, contrairement à l'URSS, par exemple, et du fait, attire beaucoup de touristes. Hein, donc, les listes hein, qu'on peut trouver dans les statistiques italiennes hein, sont considérables. Hein, c'est des millions de gens hein, qui vont continuer à aller passer leur voyage de noces, par exemple, hein, à Venise, qui continuent à aller en pèlerinage catholique aussi à Rome. Et puis, on a tous ces intellectuels ou ces hommes de lettres, en général, hein, qui universitaires, tous ces milieux culturels, qui vont aussi en Italie pour différentes raisons. Alors, c'est là toute la difficulté de discerner hein, les raisons précises pour lesquelles ils y vont. Mais on a des gens comme Jean-Paul Sartre, par exemple, Simone de Beauvoir, qui vont passer des vacances
André
hein, en
Gide.
Italie. André Gide, plus connu pour l'URSS que pour
l'Italie.
Oui, mais
qui ne fera pas, en l'occurrence, un retour du RSS.
Tout à fait, qui ne fera pas du tout le même type d'ouvrage. Alors, les retours, justement, d'Italie fasciste ont moins de succès que ceux du RSS. Pourtant, il y a à peu près 200 récits de voyage publiés pendant la période. Et la notoriété de certains, malgré tous auteurs ou éditeurs, montrent quand même l'attrait du genre. On a des académiciens, on a alors des gens aussi, des écrivains célèbres, hein, enfin Paul Valéry, Valéry Larbeau, donc André Gide, vous l'avez rappelé.
Les frères Tarot à l'époque.
Les frères Tarot, tout à fait. Hein, donc des gens qui... Alors il y a aussi, à l'époque, aussi beaucoup d'écrivains journalistes. Hein,
voilà, vous expliquez, vous faites toute une typologie, voilà, c'est énorme. La tous les reportages et les reporters qui sont envoyés sur place.
Exactement.
Pour faire des grands, oui, des articles sur l'Italie ou l'Italie fasciste, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément...
Tout à fait, parce qu'on a un régime qui est méconnu et qui attire beaucoup. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de comprendre, il faut bien contextualiser à l'époque, hein. On est avant la Seconde Guerre mondiale et donc on est à une époque où en France, il y a ces interrogations sur l'avenir, hein. Cette impression que la civilisation est en crise, que le monde libéral n'est pas forcément le meilleur modèle, hein, après 1918. Et par conséquent, on a énormément de journaux, de grands quotidiens, de grandes revues qui dépêchent sur place des écrivains, des écrivains journalistes, hein, encore une fois, et qui font faire des reportages de toutes obédiences, tout à fait, de droite, de gauche, radicaux, plus ou moins. Alors, c'est pas du tout forcément des gens qui, au départ, hein, sont attirés par le régime, mais qui, en tout cas, cherchent à le comprendre.
Oui, pourtant, il y a quand même certains intellectuels italiens qui ont fui, ou pas, déjà le fascisme.
Tout
donc, il y a quand même. Qu'est-ce qui se passe? Et qui viennent en France, en l'occurrence, se réfugier?
Tout à fait. Alors, il y a bien sûr cet aspect que personne ne nie, y compris les thuriféraires d'ailleurs, c'est-à-dire cette idée d'un régime autoritaire où les libertés ont disparu, où la surveillance est partout, ça, personne ne le nie. Et les premières victimes, vous l'avez dit, ont été ces intellectuels italiens, notamment un communiste, socialiste, qui ont quitté, qui sont très souvent venus en France, d'où les problèmes que ça pose dans les relations diplomatiques, avec ce qu'on appelle les fuoriusciti en Italie. Et puis, malgré tout, on cherche à aller voir quand même sur place ce qu'il en est. On a des jeunes adhérents, même par exemple au Parti Communiste, je pense à Albert Camus, qui fait tout un tour en Italie du Nord, hein, en 1934, jeune adhérent au Parti Communiste, hein, et qui va aller visiter Venise, Vicence, pour des raisons au départ culturelles. Mais bien sûr, aller en Italie montre qu'on a un intérêt, pas forcément pour le régime, hein, de fait, encore une fois, ça reste le pays de cette attractivité culturelle considérable, mais ces gens continuent à y aller en dépit des rigueurs du régime et de la dictature.
Alors il faut dire que le régime fasciste met en place une machine de guerre, pourrait-on dire, pour continuer à attirer les touristes. C'est la deuxième activité la plus rentable après l'agriculture pour l'Italie de ces années-là, des années 30. Mais aussi pour pouvoir attirer les intellectuels. Alors on va par exemple faire des prix sur les voyages en train, si on va visiter la Mostra della Rivoluzione Fasciste, qui dure entre 32 et 34 pendant 2 ans, donc la grande exposition de propagande fasciste, on a un abaissement du prix du billet de train qui permet d'aller jusqu'à Rome. On a un discours en 35 de Mussolini qui dit que ils vont voir si les gens viennent. On veut attirer les touristes pour voir un peuple qui aime l'ordre. Donc il y a effectivement toute une dimension de propagande, pourrait-on dire, qui va être mise en place volontairement par l'intermédiaire en particulier de Lénite, donc la grande organisme chargé de promouvoir le tourisme en Italie, pour faire venir des gens, et en particulier des intellectuels, qui, pour certains d'entre eux, aimeraient bien être financés par cette Italie fasciste. On est propriétaire de journaux, on est propriétaire de revues, on a quelques difficultés dans les années 30, et on se dit là, il y a peut-être un bon endroit pour pouvoir trouver de l'argent.
Alors, de fait, il y a une politique incitative incontestable avec ces réductions ferroviaires, hein, très très importantes. Alors, comme vous le dites, hein, il fallait aller visiter cette exposition fasciste et puis faire tamponner son billet de train à la sortie, hein, pour avoir cette réduction jusqu'à 70%, ce qui était quand même très très intéressant. Notamment que cette exposition correspond à l'année sainte 1933, hein, qui attire pour la première fois d'ailleurs des
pèlerinages.
Pèlerinages extraordinaires, enfin, qui viennent d'Amérique du Sud, d'Océanie et autres, hein, de Chine. Donc vous avez des millions de gens, hein, qui débarquent à Rome. Et donc pour le régime, hein, c'est une vitrine incontestable. Certains viennent de fait chercher à séduire le régime pour obtenir des subsides. C'est incontestable. Mais c'est pas au départ forcément l'un des premiers objectifs. Notamment, hein, par exemple, pour tous ces voyages un peu politiques des ligues, hein, qui font tant débat dans l'historiographie, sont-elles ou pas fascistes, hein, toutes ces organisations autoritaires, nationalistes, hein, des années 30. Hein.
Regards intelligents des fascistes, comme dans ceux des Camelots du Roi, brûle une flamme de même qualité, écrivait Léon Daudet de l'Action française.
Tout à fait. Mais il n'ira pas, Léon Daudet.
Mais Léon Daudet n'y va pas. Charles Maurras ne rencontre jamais Mussolini, par exemple. Et l'Action française, qui n'organise quasiment aucun, très peu, de voyages officiels. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Mussolini n'est pas un modèle pour Maurras, qui d'ailleurs regarde plutôt du côté de Salazar ou de Franco, oui, hein, à la fin de la guerre civile.
C'est plutôt les jeunesses patriotes de Pierre Tétinger.
Exactement.
Ou de Francisme
de Bucard.
De Bucard, qui lorgne sur le fascisme.
Alors,
italien.
En revanche, vous parlez beaucoup, Christophe Poupeau, et aussi à travers un article, de ces intellectuels, alors quand même plutôt de droite, conservatrice traditionnelle, qui siègent par exemple à l'Académie française.
Tout à fait.
Et qui sont des fervents défenseurs de la latinité. C'est-à-dire, il y a cette idée que le peuple italien est le peuple à l'origine de cette latinité, qu'il y a des liens avec le peuple français, que ces liens ne peuvent pas se distendre, enfin qu'il y a vraiment une communauté d'idées, et quoi qu'il arrive, quoi que ce régime soit une dictature ou non, de toute façon, voilà, ces liens doivent être continuellement réalimentés. Et donc, eux, par contre, viennent souvent en Italie, rencontrent Mussolini. Alors, je pense à des gens comme, voilà, Henri Bordeaux, André Delsor. Del Zara, ils ont une revue hein, aussi, évidemment, qui promeut.
Alors, très souvent, ces gens sont membres du comité France-Italie. Alors, cette question de la latinité qui peut faire sourire hein, est en fait très très importante pour comprendre hein, encore une fois les relations entre les deux pays. Ça vient du 19e siècle, donc c'est quand même assez récent. Hein. Ça naît même au milieu du 19e et ça se renforce plutôt à la fin du 19e siècle. Mais cette idée qui considère qu'on est en présence de deux sœurs latines, hein, une expression qu'on utilise parfois encore aujourd'hui et qui est assez singulière hein, pour désigner les relations franco-italiennes, eh bien elle marche beaucoup dans l'entre-deux-guerres. Alors, elle est bien sûr instrumentalisée par les deux parties. Hein. Parfois, c'est utilisé pour flatter hein, Mussolini et favoriser un rapprochement franco-italien. Mais pour ces hommes de lettres que vous avez rappelés, académiciens, membres de l'Institut...
Pierre de Nolhac,
tout à fait. Des gens qui, pour eux, cette question de la latinité est très très importante. Très souvent, ils ont été eux-mêmes informés aux humanités, sont passés par l'école française de Rome. Ont fait, à leur époque, en tout cas quand ils étaient jeunes, le grand tour, fin du 19e. Et considèrent que Mussolini, justement, représente en quelque sorte celui qui permet... la renaissance de cet esprit latin, de cette grandeur de l'Italie qui a toujours été jugée de manière condescendante, y compris par la France.
Charles Maurras participe de cela, lui aussi, parce qu'il y a aussi dans cette idée-là l'héritage de Mistral, etc.
Exactement, il y a tout l'héritage de Mistral et c'est pour ça que Maurras va aussi en Italie, comme il est allé en Grèce, parce qu'il croit beaucoup à cette latinité. Alors, ce qu'il faut bien distinguer, hein, c'est bien sûr le côté civilisateur, entre guillemets, et le côté politique, hein, c'est pas la même chose. Parfois, on aime la latinité, on défend cette idée latine sans forcément adhérer à toutes les idées, notamment du régime totalitaire. Mais il est incontestable que Mussolini aussi hein, croyait à cet esprit latin. Et pour lui, en tout cas, au moins jusqu'à 35-36, ça a été un élément important de sa politique étrangère.
C'est brillant.
Et d'ailleurs, bon, bah, il y a une instrumentalisation hein, évidente. Vous citez dans votre thèse Mario Chini, donc, qui est le traducteur du poète justement Mistral, qui dit « L'Italie a donné au monde la latinité. Puisque le fascisme est la plus latine des conceptions des politiques modernes, nous proclamons fasciste également Mistral. » Fasciste de la première heure, fasciste avant la lettre.
Tout à fait. Alors ça, c'est très intéressant. C'est cette récupération de Frédéric Mistral, donc par certains groupes français, mais aussi hein, par l'Italie fasciste, qui a d'ailleurs été récupéré sous Vichy, hein, qui avait beaucoup de succès à l'époque du régime de Vichy, parce que c'était le premier qui a vraiment lancé cette idée latine hein, et qui a beaucoup plu finalement. Hein, donc il y a une instrumentalisation qui est incontestable. Hein.
Oui. Et puis il y a autre chose, c'est que cette idée latine pourrait plonger dans la longue histoire de l'Italie. Jusqu'à la Rome antique, mais il y a aussi l'idée que ce régime est en train de faire un pays nouveau. Et il y a un drôle de mélange, pourrait-on dire, dans l'esprit de ceux qui viennent, entre la volonté de faire perdurer cette mythologie classique d'un côté, mais de reconnaître aussi ce qui est en train de naître dans cette Italie fasciste, l'idée qu'il y a quelque chose de neuf et qu'on pourrait s'en inspirer pour la France des années 30 en particulier.
Alors ce que vous soulevez est très intéressant, il y a tout à fait un mélange d'archaïsme et de modernité, d'archaïsme parce que c'est le souvenir hein, de ce qui est mort depuis très longtemps, c'est-à-dire l'Empire romain, mais il y a aussi cette idée d'état nouveau, justement, de transformation totale de la société. C'est la construction totalitaire, hein, cet homme nouveau que l'on cherche à ériger, hein, ce nouvel ordre social qu'on cherche à mettre en place. Et la latinité joue beaucoup aussi, il faut bien l'avoir à l'esprit, contre l'Allemagne nazie. Parce qu'on est dans les années 30 et l'Allemagne nazie est un concurrent idéologique déjà pour Mussolini. Et cette idée vraiment latine prend de l'ampleur au début des années 30, au moment justement où les nazis font de bons scores électoraux et au moment où Hitler arrive au pouvoir. Et ça va être ça va jouer un rôle important dans le rapprochement avec la France hein, lorsque Mussolini considère que ces nazis hein, n'ont pas voix au chapitre en quelque sorte en Europe.
Parce que ce régime autoritaire, avec tout ce qui va avec, hein, n'est pas du tout occulté. Hein. De toute façon, ces voyageurs peuvent. On n'est pas comme justement en URSS, on verra avec vous, Rachel Mazui. C'est-à-dire que. Mais c'est comme s'il y avait une sorte d'aveuglement, et on y reviendra avec vous, peut-être, Rachel Mazui, ensuite, aveuglé par les grandes réalisations, qu'il s'agisse voilà, des politiques urbaines, de l'ordre des autoroutes, des trains à l'heure, etc.
Oui, les trains à l'heure.
Les trains à l'heure, ça revient très, très souvent, qu'on peut. Mm-hmm. Que d'ailleurs, les opposants au régime, voit plutôt comme une marque d'autoritarisme qu'autre chose, mais de fait je ne sais pas si on peut parler d'aveuglement, en tout cas il n'y a pas d'occultation, ça c'est sûr, mais la grande différence justement avec l'URSS que vous soulevez et dont Rachel Mazui va parler, c'est qu'en France, à l'époque, il n'y a pas de parti fasciste, il n'y a pas de militants fascistes comme il existe un parti communiste, et donc on n'est pas dans le même rapport si vous voulez, bien sûr il y a des gens qui sont tentés
mais... Oui, Georges Valois, mais ça ne va pas marcher véritablement.
Ça ne va pas marcher véritablement et puis à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, personne ne comprend vraiment ce qu'est le fascisme. Il y a une doctrine qui est très difficile à percevoir, même en Italie même, quand on interroge certains hiérarques du régime, on a du mal à comprendre ce que c'est. Et c'est pour ça que ça attire aussi beaucoup de gens qui voient un petit peu ce qu'ils ont envie de voir. C'est-à-dire qu'ils prennent les aspects qui leur plaisent, les trains qui arrivent à l'heure, les beaux monuments, on va assécher les
marais
pontins, l'ordre, voilà, fini les flâneries, un peuple qui se met au travail. Et puis parfois, on va oublier aussi, ou mettre de côté d'autres aspects comme la répression ou la surveillance excessive.
Et il faut dire, vous faites une cartographie parfaite de ces voyages en Italie pendant l'Italie fasciste, des touristes, mais aussi de ceux qui sont des intellectuels ou des politiques, ils vont quand même dans 3 ou 4 endroits d'Italie et ils abandonnent complètement, par exemple, la botte italienne est complètement abandonnée, à part évidemment le sud de la botte, à part Naples. Un petit peu Palerme, etc. Mais tout le reste est totalement abandonné. On ne va jamais du côté de Bari, on ne va jamais du côté de Brindisi, des Pouilles ou de Calabre.
La question méridionale subsiste pendant le fascisme et Naples est très souvent la dernière limite. Alors il y a un petit peu la Sicile, mais les voyageurs remarquent d'ailleurs que quand on sort des grandes artères, même à Rome, eh bien on a un régime qui finalement n'est pas si autoritaire que ça, qu'il y a encore des mendiants, qu'il y a encore des immondices, et que ça reste une Italie finalement telle qu'on se la représente très souvent en France.
Chanté par les chœurs de l'armée rouge. On a compris que la boussole ne nous conduit plus au sud de l'Europe, mais plutôt à l'est, avec vous, Rachel Mazui, pour ces voyages d'intellectuels et de politiques aussi à l'est de l'Europe, à savoir en URSS, là aussi, une patrie nouvelle pour tous les travailleurs, en l'occurrence. Et cette idée de la nouveauté est un fort argument pour pouvoir partir, justement, et aller voir ce qui s'y passe.
Oui, on est presque à l'inverse des voyages en Italie, c'est-à-dire qu'on a très peu ce passé des ruines de l'Empire romain, enfin de tout ce qui ou de la latinité, et on est par contre face à la grande lueur de l'Est, cet horizon nouveau, presque mystique pour certains, qui va effectivement attirer des milliers de personnes de toutes catégories sociales.
Est-ce que Rachel Mazuy, on peut établir une sorte de chronologie, les premiers voyages après la Révolution de 17, les années 20, les années fin des années 20, début des années 30, l'État français, l'État soviétique sont en mauvaise relation, donc les voyages sont peut-être plus moindres. Et puis après, il y a un renouvellement encore des voyages, peut-être au moment du Front populaire. Est-ce que voilà, on peut établir comme ça une...
Alors, oui, bien sûr, premiers voyages sont des voyages très peu nombreux, tout d'abord, parce qu'on circule difficilement dans la patrie du socialisme. On a du mal à obtenir des visas. Il faut Albert Londres, par exemple, qui va en 1921, va frapper à la porte de Litvinov et faire tamponner 17 fois son passeport avant d'arriver à Moscou.
J'aime bien vous raconter Madeleine Pelletier aussi.
Voilà, Madeleine Pelletier qui arrive, d'aller seule. Qui passe les frontières dans une charrette pleine de foin, qui va, enfin bon, elle arrive, il n'y a évidemment personne pour l'accueillir. Enfin, c'est effectivement compliqué, y compris d'ailleurs pour les premières délégations socialistes avant que le Parti communiste existe, parce qu'on les voit à Moscou d'un œil un peu suspect. Donc on a effectivement essentiellement les premiers reporters et puis les premiers, on va dire, futurs communitariens ou les premiers socialistes, membres du mouvement ouvrier qui vont à la rencontre de leurs frères soviétiques.
Alors peut-être avec moins d'allant, d'une certaine façon, du régime pour attirer ces gens-là. C'est un peu différent de ce qu'on a entendu à propos de l'Italie fasciste. Il n'y a pas une organisation, enfin, elle va se mettre en place cette organisation. Mais on a un peu de méfiance vis-à-vis de tous ces gens qui viennent de l'extérieur. Et donc, on ne va pas organiser du grand tourisme de masse pour pouvoir visiter l'URSS.
Au départ, non. Pas avant 1925, effectivement, même si le Narkomingel, c'est-à-dire le commissariat du peuple aux affaires étrangères, et le Comintern sont les deux organismes qui, très vite, mettent en place des structures d'encadrement et on va, effectivement, dès le départ, mettre en place des guides interprètes qui sont souvent, d'ailleurs, des Français qui habitent sur place ou des membres de l'élite qui parlaient français pour les voyageurs français. À partir de 1925, ça se structure... Mm-hmm. Ça se structure de façon beaucoup plus forte que pour l'Italie, par contre. Et au contraire, je pense que l'URSS va servir de modèle aux deux puissances fascistes pour encadrer un tourisme de masse, parce qu'il s'agit effectivement très vite pour la princesse en guenilles. Donc la première structure qui apparaît en 1925, c'est la VOX, la Société pour les Relations Culturelles avec l'Étranger, qui est contrôlée par tout un tas, par des organismes d'État, par le comité central du Parti communiste, par des commissariats. Enfin bon, il y a tout un tas d'organismes qui sont autour d'elle et avec qui elle travaille, et en particulier avec le commissariat du commerce extérieur, parce qu'effectivement, la princesse, elle est en guenilles, pour reprendre l'expression de Panagiotis Frati. Et quand se met en place l'Intouriste en 1929, il s'agit d'abord et avant tout de ramener des devises. Qui peuvent effectivement permettre à l'URSS d'améliorer sa situation. Il y a une triple dimension dans la diplomatie culturelle soviétique. Il y a la dimension classique, mais qui est importante pour l'URSS parce qu'il s'agit d'asseoir sa légitimité auprès des autres puissances, en particulier des puissances occidentales. Et puis une diplomatie idéologique très 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 forte, et l'idéologie prime sur le reste. Et puis la troisième dimension qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la dimension économique. Et on a vraiment un tourisme de masse qui se met en place avec, à partir de 1932, un bureau Intouriste en France qui est le principal organisme par lequel passent les voyageurs, mais ce n'est pas le seul. Dans Cousu Fil Rouge, on montre qu'il y a des agences de voyage tout à fait normales qui vendent des billets de train pour l'URSS, mais qu'on est face à un tourisme très encadré, que ce soit d'ailleurs pour les délégations politiques du départ comme pour les croisiéristes des années 30.
Avec pour vocation, Rachel Mazuy, non pas de découvrir une civilisation, comme par exemple en Italie, mais de découvrir un régime politique, encadré, de manière encadrée, évidemment.
Voilà,
mais...
alors, effectivement, c'est la grande, grande différence. C'est-à-dire qu'on n'a pas la liberté d'aller passer des vacances au soleil, et pas encore sur les plages italiennes, mais en tout cas...
Ni en Crimée.
Alors, si, on peut aller en Crimée. Et effectivement, ça fait partie des voyages. Et très, très, assez tôt, d'ailleurs, les membres du parti communistes vont aller mettre en place les voyages de repos dans les sanatoriums de Crimée. Et dans les itinéraires, l'Ukraine et la Crimée font partie des itinéraires assez classiques après Moscou, Leningrad, qu'on trouve très très trop apparaître dès la fin des années 20 dans les délégations. Il y a cette dimension-là. Mais effectivement, le voyage, là où il est important, c'est qu'il doit nourrir la construction du socialisme et qu'il faut rapporter à l'Ouest, tout ce que l'URSS fait, tout ce que l'URSS est en train de construire. Et donc, on va aller visiter des usines, des crèches, des multiples clubs ouvriers. Les musées vont exister, mais on va... Et là, il y a une dimension, en fait... spécifique aux délégations dites ouvrières, qui est qu'on va leur montrer le musée Pouchkine, mais évidemment, en retour, ils vont parler du musée de la Révolution et jamais du musée Pouchkine, alors que pour les intellectuels, et ça aussi, les soviétiques mettent en place des délégations très, très spécifiques avec des itinéraires plus ou moins, pas individualisés, mais personnalisés en fonction de la composition des groupes qui font que, bien, un avocat va aller voir des procès, la justice. Alors, pas n'importe quel avocat. Hein. Lefortovo, on peut la visiter encore, la prison de Lefortovo, on peut la visiter encore dans les années 20, dans les années 30, dans la période des purges, c'est plus possible. Et c'est quelqu'un comme Marcel Villard, avocat du parti, qui va pouvoir aller visiter des prisons.
Et puis on va aussi aller voir la liberté sexuelle, du moins dans la première le premier temps de la révolution soviétique, parce qu'il y a aussi cette idée qu'il y a de l'égalité des hommes et des femmes, etc., et que vous avez fait un article sur ce thème-là, Rachel Mazui, on va pouvoir aller imaginer ce que serait une autre société où les rapports de genre, où les rapports entre hommes et femmes seraient différents, et puis ensuite, évidemment, ça va pas durer très très longtemps, cette vision-là.
Alors, cette vision-là, elle est portée à la fois... elle peut être portée par les féministes, et là, on est du côté d'Alexandra Kollontai, on est vraiment dans une égalité au sens féministe du terme. Elle peut être portée avec une orientation plus sexuelle, où on va aller faire l'amour avec la révolutionnaire rouge, quoi. C'est un peu ça. Et certains des premiers délégués du Comintern ont clairement ça en tête, de se trouver une jolie russe.
Le charme des anges gardiens.
Voilà, il est évident que par la suite, c'est Natacha, pour reprendre, c'est Nathalie, pour reprendre le nom de la chanson de Gilbert Bécaud, ont existé également. Mais effectivement, dans les années 30, la liberté de l'avortement, on revient à une politique familialiste que récupère assez rapidement le Parti communiste français. Et qui va expliquer les positions de Jeannette Torres dans les années 50 sur l'avortement, etc.,
famille,
etc. Donc on n'est plus du tout dans cette configuration
des débuts de la révolution.
Des débuts.
Et puis il y a les voyages scientifiques. Alors vous parlez par exemple de cette décade de 1934 où un certain nombre de scientifiques de haut niveau, de haute volée, vont partir une dizaine de jours en URSS faire des conférences et puis par ailleurs visiter aussi cette URSS, aller au concert, au musée, le tout très.
Alors là il y a deux aspects à mon avis. Il y a d'abord le fait qu'il y a en France des scientifiques qui avaient des relations avec la Russie et qui veulent les maintenir autour de l'école des langues orientales, autour de Paul Boyer, autour d'André Mazon, par exemple, et va se mettre en place en 1925 le comité pour les relations scientifiques avec la Russie, dans lesquels il y a cette vision d'une science neutre qui est évidemment impossible et qui fait que ces hommes sont souvent en porte-à-faux avec les attendus soviétiques, mais vont passer évidemment par la diplomatie culturelle française cette fois-ci, qui elle aussi a un rôle à jouer. Il faut, dans les années 20, la position de Mazon, c'est attention, les Allemands vont nous rattraper, il faut faire mieux que l'Allemagne, donc il faut échanger avec la Russie. Donc ils se transforment, ces hommes-là, en sorte de diplomates sans être réellement des diplomates. Et effectivement, la diplomatie culturelle officielle va suivre à partir de 32-33. Au moment où, en fait, on a un gouvernement Herriot, cartel des gauches, qui joue le rapprochement avec...
ira d'ailleurs en URSS.
Qui ira deux fois en URSS, avec un voyage bien connu sur lequel a travaillé Sophie Curé en particulier, celui de 33, mais un premier voyage en 22, qui est un voyage poussant vers la reconnaissance, avec Anatole de Monzy, qui est l'autre élément important de cette reconnaissance de l'Union soviétique. Mais pour revenir à la décade de 1934, effectivement, là, on s'aperçoit qu'on a un panel de scientifiques dont certains sont engagés à gauche, mais ce n'est pas la totalité. Et vous avez, par exemple, dans un indianiste, et on retrouve parmi ces scientifiques neutres, essentiellement, effectivement, les orientalistes et les slavisants. Les les physiciens, les Langevin, ensuite les Joliot-Curie sont évidemment beaucoup plus dans l'engagement, même si ça permet, pas cette décade, mais ces relations scientifiques vont permettre, comme l'a montré Isabelle Gouarnet dans sa thèse, finalement, autour du cercle d'Alaricineuf, qui est une autre organisation de relais, clairement, par contre, philo-soviétique, ça va permettre d'introduire le marxisme en France. Donc on passe des sciences dures aux sciences sociales.
Par cet intermédiaire. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les soviétiques s'imaginent bien qu'ils prennent un risque à faire venir autant de monde dans leur pays, même si c'est un pays de construction du socialisme, tout le monde, tous ceux qui viennent ne sont pas forcément convaincus. Et donc, ils prennent un risque parce qu'il y a justement ces fameux retours d'Urss, il y a ces fameux livres qui mettent donc peut-être le régime en péril. Mais malgré tout, ils préfèrent encore s'ouvrir de cette manière-là pour pouvoir faire venir toujours plus de monde, voir les réalisations socialistes et faire en sorte que ça permette en parallèle au Parti communiste français de mieux se construire dans la société française.
Alors oui, ils prennent un risque, mais c'est un risque calculé, parce que d'abord, les invitations sont quand même...
Trié sur le volet.
Si on prend la grande délégation de 1927 pour le 10e anniversaire de la Révolution, où il y a plus près de 150 Français qui vont être accueillis, a priori, il y en a 109 qui sont déclarés officiellement du côté des communistes français. Vous avez au départ Pierre Navy et Gérard Rosenthal, qui sont proches de la mouvance trotskiste, qui au départ se voient refuser leur invitation. Ouais. Finalement, ils vont partir avec Rakowski, qui est l'ambassadeur qui va mal, qui lui-même est trotskiste. Et ça se passe mal.
Oui, ça se passe mal parce que Navy revient et fait un texte terrible.
Tout à fait. Mais en l'occurrence, se met en place, et c'est l'autre solution à ce risque qui est pris, se met en place ensuite une batterie de témoignages, en particulier émanant des ouvriers, d'où l'importance dans la fin des années 20 et le début des années 30 de ces délégations ouvrières, parce que seul l'ouvrier peut ramener la vérité sur l'URSS en construction, qui est la patrie des ouvriers, ou la patrie des travailleurs, on va dire. Témoignage des ennemis de l'Union soviétique, dans la revue des Amis de l'URSS, Russie d'aujourd'hui, dans les années 30, il y a une rubrique ennemi de l'Union soviétique, qui est alimenté chaque année avec évidemment des contre-témoignages qui déconstruisent le discours de ses ennemis.
Voilà. Et avec Jean Zay, le Front populaire, il y a aussi des échanges culturels, enfin en tous les cas des peut-être voilà des voyages d'artistes, vous dites de cinéastes, de dramaturges, peut-être qui sont davantage ou même Jean Zay veut comprendre un peu voilà le système, le fonctionnement en fait des théâtres et des institutions culturelles en URSS.
Alors, la diplomatie culturelle française, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se met en branle à partir de 32-33, enfin même avant, mais disons qu'on commence à voir des échanges culturels plus officiels dans les années 30. Et cette décade scientifique est le moment fort de ce temps-là. Donc ça va évidemment se poursuivre avec le Front populaire, avec un Jean Zay qui passe pas qu'en en URSS, hein, il fait un tour très large. Et vous avez effectivement des voyages de type Front populaire, moins des cinéastes sur cette période-là,
à part
Renoir, effectivement, qui fait un voyage très intéressant. Enfin, c'est le moment, le compagnonnage de Renoir, c'est ce moment de son philo-soviétisme, excusez-moi. Il amène Tony, il va présenter Tony et il repart avec un projet de travail avec Eisenstein. Donc bon, il veut scénariser Gide, les faux monnayeurs de Gide. Donc ça c'est un premier plan. Vous avez également, vous en avez quelques-uns, mais vous en avez peu. Ça va être plutôt après la guerre qu'on va voir un vrai voyage des voyages de cinéastes qu'auparavant. Mais oui, vous avez par exemple deux délégations autour du journal typique du Front populaire de Vendredi avec André Chanson qui part en 36 et 37. Vous avez effectivement toutes ces missions d'hommes qui veulent aller voir l'expérience soviétique.
Et pourtant, il y a quand même les procès de Moscou, Rachel Mazuy, juste à ce moment-là.
Les procès de Moscou vont évidemment mettre un là sur l'expansion. Ça c'est clair. Il est évident que si on compare le tourisme mondial dans les années 30, l'URSS avec sa batterie d'hôtels et d'encadrement mis en place par l'Intourist va augmenter son tourisme, en particulier du côté des pays anglo-saxons dans les années 30, mais à partir de 37-38, ça rediminue. Alors c'est lié également la montée des tensions, c'est lié à la crise économique, même si ça aurait dû toucher le tourisme avant, du côté américain par exemple. Et si on prend les chiffres qu'on peut avoir, on s'aperçoit qu'on est à près de 2000 touristes français en 36 et on tombe à 800, 900.
Moitié moins.
Bon, mais ça reste quand même, on en a quand même encore, 389 je crois, en visa délivré à Paris. Donc ça compte pas les croisières qui arrivent par les pays scandinaves en 1939. Mmh. Ça s'arrête en 40 et en 40 vous avez quand même plus de 2000 visas allemands qui sont délivrés par l'Intourist.
Ah oui. Allez savoir pourquoi.
Plus de 4000.
Allez savoir pourquoi. Quand vous écoutez Rachel Mazuy, Christophe Poupeau, vous vous dites qu'il y a là possibilité d'un travail commun autour de toute cette question des voyages, de concevoir un large ensemble de travaux sur les voyages en pays autoritaires et en dictature, en particulier dans cette entre-deux-guerres.
Tout à fait. Alors c'est en cours, puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, on fait un grand colloque à la Sorbonne fin avril avec Olivier Dard, avec Frédéric Salé, avec Rachel Mazuy, j'espère, et avec d'autres, bien sûr, autour de ces voyages dans les régimes autoritaires et totalitaires.
Et est-ce que certains travaillent justement sur aussi l'Espagne, le Portugal à la même...
C'est très intéressant. Le Portugal, c'est en train d'être fait. C'est en train d'être fait parce que Salazar a été aussi très visité. Enfin, en tout cas, le régime de Salazar a été très visité. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quid des régimes d'Europe de l'Est, plutôt. On s'intéresserait, par exemple, à la Pologne, de Pilsudski, à la Grèce, à la Hongrie, voilà. Même à l'époque d'Orti.
Orti, enfin, bien sûr.
Voilà, donc il y a tout un...
Au garde d'Autriche,
de Dollfuss. Ouais. Et là, il y a peu de travaux, il y a des pistes, hein, mais il y a peu de choses. Même l'Espagne de Primo de Rivera. Donc là, on essaie justement, enfin, ça va être l'un des objectifs du colloque, c'est de travailler sur toutes ces questions, de faire quelque chose, un colloque international autour de tout ça.
Mais écoutez, ça nous fait plaisir. Ouais. Vous redonnez les dates de ce colloque?
Alors, a priori, ça sera le 20 et 21 avril 2017 à la Sorbonne.
Voilà, et donc pour lire Rachel Mazuy, Croire plutôt que voir, c'est publié chez Odile Jacob, et puis Cousu de fil rouge avec Sophie Curé, c'est publié
aux éditions du CNRS.
Aux éditions du
Comme
CNRS.
Les lettres des blocs.
Voilà, qui s'appelleront comment, sous quel titre?
A priori, Moscou-Caucase, été 1934, puisque c'est le voyage pour le premier congrès des écrivains socialistes, le voyage du réalisme socialiste.
Oui, donc c'est Marguerite et Jean-Richard Bloch, et pour vous, votre thèse est publiée, donc ce voyage dans l'Italie des chemises noires est publié aux éditions de l'École française de Rome. Donc Christophe Poupeau. Alors on va continuer demain avec vous, Séverine Yatard, avec le documentaire que vous nous proposez, réalisé par Véronique Samoïlov. Un grand voyage politique, mais dans un autre continent.
Alors je fais le lien quand même, parce que Général de Gaulle, donc il part pendant... plus de trois semaines pratiquement, en 1964, à l'automne 64, va donc visiter une dizaine de pays, Amérique latine, Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, enfin il fait un périple incroyable, et il va aussi visiter quand même en passant quelques dictatures, ne l'oublions pas, donc c'est pas du tourisme, mais voilà, à l'époque l'Équateur, le Paraguay ou le Brésil sont des dictatures, et certaines vont le devenir bientôt, comme bien sûr l'Argentine ou le Chili.
Et la France, qui n'est pas une dictature à l'époque, en 1964, en tout cas, suit abondamment, en tout cas la radio française.
Absolument.
Suit abondamment ce voyage.
Et
on a donc de formidables archives.
De formidables archives télé et radio. Il y a une quarantaine de journalistes, en fait, qui partent faire ce voyage avec le général de Gaulle.
Écho de votre documentaire de demain, donc monté par Véronique Samoïlov.
Avant les risques et les fatigues d'un long voyage, le général de Gaulle s'est donc embarqué pour ce continent sud-américain. Un voyage qui va durer 26 jours et le conduire dans 10 États. L'expérience de la France et son assistance technique, c'est ce que le président de la République française va offrir à ces nations d'Amérique du Sud à l'heure où elles abordent une étape importante de leur développement économique.
Et il part seul et avec sa femme, mais aussi avec le ministre des Affaires étrangères, mais uniquement, point final. Donc c'est sa personne qui est honorée et qui est mise en avant.
Le président de Gaulle arrive sur le tapis de velours rouge au centre de l'allée.
Vous êtes en mouvement dans la foule avec nous, est-ce que vous avez déjà assisté à un pareil spectacle?
Ah non, jamais, jamais, c'est tout à fait extraordinaire.
Après les cris et les vivas en l'honneur du macho, du grand homme, ce sera la diablade.
Le général de Gaulle vient d'arriver. Il se voit difficilement lui aussi un passage parce que la foule trouve son passage et essaie de suivre le
général de Gaulle.
De Gaulle, c'est quand même peut-être le Français le plus connu à ce moment-là. Il a une popularité qui le précède. C'est le chef de la France libre. Il est enfin reconnu en 64. J'insiste sur cette date-là parce qu'elle est importante après la guerre d'Algérie. Il est enfin reconnu comme celui qui a réussi la décolonisation, qui a été le libertador de la France face aux nazis aussi pendant la Seconde Guerre mondiale.
Monsieur Ravanel rappelle en ce moment le jour historique où, en 1944, toute la population se déversa sur cette même place pour fêter la libération de Paris.
Voilà ce qu'on pourra entendre dans le documentaire que vous avez conçu et réalisé, Séverine Yatard, avec Véronique Samouilov et bien d'autres choses encore.
Parce alors, qu'effectivement, qui dit évidemment que la France veut jouer de nouveau un rôle international important. Oui. Donc De Gaulle y a porté la bonne parole, la coopération, même si la France n'a pas vraiment les moyens économiques, notamment de rivaliser avec évidemment les États-Unis à l'époque. Et il y a donc toute cette problématique, c'est-à-dire comment les États-Unis perçoivent ce voyage de Gaulle. Bon. Il est observé, mais ils sont peu inquiets.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le documentaire de la semaine dernière qui traitait du départ des troupes de l'OTAN de France en 1966 pourrait faire une sorte de duo avec votre documentaire. Mais on parlera donc mercredi et jeudi. On continuera sur ces questions des voyages politiques à l'occasion des rendez-vous de Blois qui s'appellent, donc, dont le titre est « Partir ». Donc, et on en parlera, mais en remontant au XVIe siècle, mercredi.
Voilà, le grand tour de Charles IX, qui va partir pendant 2 ans faire un tour de la France sur les conseils de sa mère, bien sûr, pour évidemment, c'est la problématique du gouvernement en déambulation, c'est-à-dire itinérant. C'est-à-dire, on gouverne la France en allant la visiter et donc rencontrer à la fois les villes et les populations. Et puis jeudi, le voyage et la problématique de la Révolution française et de la République. En fait, comment cette République à la fois sort ou au contraire rentre, enfin au niveau des idées et au niveau de cette circulation.
Les circulations des idées et des hommes à l'occasion de la Révolution française en particulier. Merci à vous, Séverine Yatard. Merci encore à vous, Christophe Houpeau et Rachel Mazuy d'avoir été nos invités ce matin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ou bien la télécharger, allez sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur le réseau Facebook et nous suivre sur le réseau Twitter. Je vous rappelle l'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.